Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir
Bonsoir
Max.
Alex,
Bon, c'est bien, on l'a dit en même
bonsoir
temps.
à tous. Comment vas-tu?
Eh bien, ça va très bien, hein. C'est pas comme si on avait préparé l'émission toute la journée, enfin toute l'après-midi ensemble.
C'est ça.
Comment ça va chez vous? Bonsoir. C'est marqué, je le vois mal du coup, c'est très petit chez moi. Clara, je crois, c'est ça? Non. Pourquoi le
Si,
chat ne
bah
met pas à
Clara.
jour chez moi? Ah, je veux
Bonsoir,
stop chat. Voilà.
Clara.
Bonsoir Clara. Bienvenue. Installez-vous pour une soirée très spéciale. De quoi va-t-on parler, Max, ce soir?
Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de. On va faire un bond de 40 ans en arrière, plus que ça même parfois, pour aller parler des ambassadrices, enfin, des ambassadrices françaises Disney.
Et on va parler de chanteuses que vous connaissez très certainement.
Eh ben, on est parti.
Eh bien,
J'ai les
nous allons
lunettes.
donc parler des ambassadrices Disney en France et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec, est-ce qu'on peut vraiment dire ambassadrice?
C'est quand même la première. Le prototype.
Alors exactement, on va passer au prototype, le prototype Chantal Goya. De son vrai nom, Chantal Deguerre, née le 10 juin 1942, ça la rajeunit pas, et année d'ambassadrice de 1977 à 1981. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, nous-mêmes nous ne l'étions pas.
Je ne suis pas si vieux.
Non, effectivement. En fait, elle n'était pas officiellement nommée ambassadrice. Déjà, alors on va faire un mini historique. À la base, les ambassadrices Disney, c'était aux États-Unis. C'était donc des femmes à chaque fois qui promouvaient, on va dire, l'univers Disney par des émissions, par des chansons. Voilà, c'est pour ça que la plupart des ambassadrices dont on va parler ce soir ont fait des chansons et vous allez voir qu'on va avoir quelques petites surprises, quelques vidéos à vous montrer.
Ce soir, c'est kitsch. D'habitude, c'est quand même plutôt posé. On va faire des analyses, on est sérieux, on va utiliser des mots en continu. Leitmotiv, par exemple.
Là, on
Et
ne l'utilisera pas
là,
le
ce soir,
leitmotiv.
il n'y aura pas de leitmotiv ce soir. Il n'y aura pas de piano, il n'y aura pas de truc propre, tout ça. Ce sera que du kitsch.
Alors, Chantal Goya, pourquoi c'était pas vraiment une ambassadrice? Parce qu'il faut savoir que les ambassadrices Disney étaient plutôt jeunes aux États-Unis et que pour Disney, pour la maison mère, Chantal Goya était un petit peu vieille parce qu'elle avait déjà 35 ans. Sachant que j'ai 30 ans dans quelques mois, ça fait mal.
Pourra bientôt ne plus être ambassadrice Disney.
Exactement, mince. Et alors son morceau le plus connu, vous l'avez entendu il y a quelques minutes en début de live, il s'appelle Allons chanter avec Mickey. Donc cette chanson que vous entendez derrière s'appelle Allons chanter avec Mickey. Alors qu'est-ce que tu peux en dire de cette musique?
C'est une musique qui a été composée. Et les paroles ont été écrites par Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout qui est le mari de Chantal Goya.
Ah d'accord. C'est bien, j'apprends des choses, moi, c'est très bien.
Alors, j'ai trouvé aussi une autre info comme quoi les paroles auraient été écrites par un des paroliers les plus connus de l'époque de Chantal Goya. Je ne sais plus son nom de famille. Je l'ai pas noté, c'est bien. Encore un bon live préparé, ça.
Oui, bon, hein, quelqu'un qui
Non.
travaille toujours avec Goya, quoi.
Voilà. En tout cas, d'après la partition que j'ai reçue hier par la poste, c'est Jean-Jacques Debout qui a fait les deux.
Ok.
Ça parle du personnage de Marie-Rose. Et en fait, Marie-Rose, c'est un personnage qui a été développé par Chantal Goya, enfin, par Chantal Goya et puis son équipe dans les années 70 pour ses nouveaux spectacles. C'est-à-dire qu'il y a même encore un spectacle qu'elle a fait en 2015-2016 qui utilise le personnage de Marie-Rose.
Ok.
C'est pour ça donc qu'on entend parler de Marie-Rose, personnage qui n'existe pas du tout chez Disney. Allons chanter avec Mickey, pardon, n'est pas la première chanson que Chantal Goya a fait de Disney. En 76, elle avait fait une reprise de Davy Crockett. Par contre, Allons chanter avec Mickey, c'est vraiment la première musique originale de Chantal Goya pour Disney.
Ok.
David Crockett, qui est une musique qui a été reprise plus tard par Pushka, qui a été reprise auparavant par Annie Cordy. Enfin, tout le monde a repris la chanson de David Crockett. Musicalement, il n'y a rien de bien transcendant. En même temps, un peu comme toutes les musiques en général.
C'est ça.
Ah, un petit freeze. Ça ressemble aux musiques enfantines de Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout aussi, qui a fait beaucoup de génériques d'animés dans les années 70-80. Tout ce qui est Goldorak et Abattoir et tout machin, c'est Jean-Jacques Debout qui les a fait. Donc voilà, ça ressemble aux musiques enfantines de Jean-Jacques Debout. On notera qu'on parle de Goofy et non de Dingo.
Oui, ça m'a vraiment surpris, ça.
Alors, je sais pas si on parle de Goofy pour faire la rime... Ouais, voilà, avec Minnie. Je sais pas s'ils ont pris Goofy pour faire la rime avec Minnie, ou si le personnage, si le nom de Dingo était pas encore super connu à l'époque, donc ils ont préféré prendre Goofy parce que ça passait beaucoup mieux.
C'était en 77, du coup.
Après, c'était quand même bien.
Dingo devait exister quand même. Alors, je pense.
Est-ce que le nom de Dingo existait ? Je sais pas. S'il y a des personnes qui sont nées dans les années 70, faites-nous coucou.
Honnêtement,
vous n'oublierez
ça
pas d'aller prendre vos cachets avant d'aller vous coucher. Et donc voilà, donc il y avait un Goofy et Dingo. Il y avait les personnages les plus populaires de l'époque aussi, donc Mickey, Minnie, Pluto,
Clochette,
Donald,
Bambi.
Et puis il y avait aussi donc les personnages un peu plus et Dumbo, Clochette, Bambi, Wendy, qui étaient aussi connus à l'époque. Je sais pas, peut-être plus connus on dirait que Dingo, vu qu'ils ont leur vrai nom eux. Ce qui est drôle aussi, c'est dans la chanson, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un gros problème de parole, parce que Clochette et Wendy sont quand même ennemis dans le dessin animé.
Oui, c'est ça.
Ça se sent, ça se sait. Et puis là, au final, il faut que tu ailles faire la fête avec Clochette et Wendy.
Oh, l'ambiance pourrie.
Après, la chanson en elle-même ne parle pas des parcs Disney, ne parle pas du parc Disney qui était déjà ouvert en Californie et puis en Floride. C'est vraiment une invitation à aller dans un autre monde qui existe, un monde imaginaire, un peu comme Chantal Goya, un peu comme ce que proposait Chantal Goya depuis très longtemps, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Je vous demande vraiment de regarder les personnes à l'arrière.
Ça va rien.
Ne réglez pas votre téléviseur.
C'est le truc parfait Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout avait le don de faire des mélodies comme ça, en fait. Il balançait ta-ta-ta-ta-ta-ta, et puis après, il avait une phrase qui continuait.
C'est ah ouais
parfait Jean-Jacques Debout. En fait, il a fait la même chose dans Allons chanter avec Mickey, il balance sa phrase, et après, il fait le reste des phrases.
Voilà, donc ça, c'était la prestation de Chantal Goya. Très courte, version très très courte. Et maintenant, vous allez voir...
On reconnaît Patrick Sébastien.
On reconnaît Patrick Sébastien. On reconnaît aussi bien la même mode des années 70 hein, dans le public, très clairement.
Ah, la coupe mulet.
Ah, la coupe mulet de Patrick Sébastien.
Chantal Goya et Patrick Sébastien ont la même coupe mulet.
Je vais te faire un cadeau.
Ah, oui,
parce que je crois que tu ne l'as jamais vu.
Oui.
Jamais. Ça s'est passé il y a 10 ans dans notre émission. C'est quand même assez étonnant. Est-ce que tu sais que Francis Cabrel avait chanté une chanson de toi?
Non, je ne savais pas.
Eh ben, la fameuse Riri Fifi Loulou. Vous savez que ça va vachement bien, Francis Cabrel, quand même, cette chanson-là.
Ah oui, c'est sûr.
On avait demandé très gentiment à Francis, qui est sûrement l'auteur-compositeur qui a le plus de talent aujourd'hui, on lui avait demandé de se prêter au jeu avec humour, de nous chanter Riri Fifi Loulou. Eh bien, il l'a fait, Francis. Alors, on va vous le repasser.
Regarde, Johnny.
C'est pas tout à fait le même style que toi.
Donc, écoutez Francis Cabrel qui chante Riri Fifi Loulou sur Farandole. Avec la belle coupe mulet, une fois de plus.
Moustache.
Rock'n'roll,
c'est pas le style Cabrel. C'est Cabrel, en fait, là, il nous fait un double cadeau. C'est du rock et du Fifi Loulou.
Ouais.
Oh, vache.
Ouais. J'espère que cette prestation vous plaît.
Mon Dieu, c'est affreux.
Ah, Après, c'est vraiment d'époque, hein, j'ai envie de dire. Fallait oser, exactement, exactement, il fallait oser, et ils ont osé. Donc ça, c'était Chantal Goya. Mais Chantal voilà, Goya... Vas-y.
Elle a fait Riri Fifi Loulou, elle a fait sur le même vinyle Peter et le dragon, et puis Donne la patte et Shaggy Dog. Et c'était les quatre chansons de Chantal Goya.
Alors, c'est quoi Shaggy Dog? Parce que là, en fait, quand j'ai vu Donne la patte Shaggy Dog, je me suis dit, est-ce que c'est du Disney?
Oui, c'était, des films des années 50-60 chez Disney. Le premier est en noir et blanc, le deuxième est en couleur.
Ok.
C'est le truc, les films dans les studios chez Disney avec le parfait cliché de la famille américaine, maman qui fait de la popote, le papa qui travaille avec sa petite mallette et puis l'enfant qui joue au ballon avec son short, même en hiver.
Ouais, je connaissais absolument pas, tu vois, c'est le genre de truc, aucune idée.
Et voilà, et donc c'est tout qu'on avait dit sur Chantal Goya.
Et donc, Chantal Goya, voilà, entre 77 et 81, elle a eu une sorte de partenariat, elle n'était pas vraiment ambassadrice, mais c'était plus une sorte de partenariat avec Disney, et s'en est suivie la première véritable ambassadrice Disney, déjà connue du grand public, j'ai nommé Dorothée. Dorothée,
c'est une carrière plus courte encore même que Chantal Goya,
oui,
au final.
Ouais, au final, ouais. Et on va bien voir pourquoi d'ailleurs. De son vrai nom, Frédéric Auchedet, né le 14 juillet 1953, et donc de 81 à 84, elle était ambassadrice. Alors c'est quand même le premier vrai succès commercial de Dorothée au final, au niveau de la musique. C'est son premier vrai succès commercial, c'est avec justement Disney. Dorothée était d'ores et déjà l'animatrice phare de l'émission Récréa 2 sur Antenne 2. Et elle a été donc nommée ambassadrice. Alors j'ai marqué pourquoi j'ai marqué 79 moi. Ça doit être 81. J'ai dû me tromper quelque part. Et elle a lancé Disney Dimanche, qui a existé jusqu'en 87. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait avec Disney, Dorothée?
Elle a fait qu'une seule chanson, qui était la version commerciale film du dessin animé Rocks et Rookies.
Alors allons voir, allons tendre une oreille du côté de Dorothée avec Rocks et Rookies. On va commencer par le clip peut-être. Oui, parce que après, oui, je me souviens de ce qu'est l'autre vidéo.
Rocks et Rookies, deux petits amis, petits bébés chiens, renards orphelins. Bonheur, ils ne savent rien du monde des humains. Mais Rocks et Rookies s'en vont dans la vie avec dans les yeux un coin de ciel bleu. Et dans la forêt, ils vont gambader sous l'œil attendri de tous leurs amis. Heureux, car ils ont un secret.
Julien ne pense pas si bien dire.
L'amitié.
L'amitié. Oh, ce petit fondu.
C'est beau.
C'est mignon.
La morale de la chanson. La morale de la chanson. Ils ont un secret, ils sont amis.
Ne peut pas savoir qui doit avoir peur du chien d'un chasseur qu'ils sont ennemis. Parce que c'est.
Je découvre en direct, hein, moi aussi.
Alors que je regarde ce dessin animé.
Tu l'as jamais vu?
Je l'ai vu une fois, peut-être deux.
T'as vu Descendante, mais t'as jamais vu Rocks et Rookies? Bah remarque, moi aussi, j'ai vu une seule fois quand j'étais enfant. Alors déjà on peut dire, on remarque quelque chose, hein, vous remarquez tous quelque chose au niveau de l'audition. Vas-y Max, je te laisse le dire.
Bah, c'est qu'en fait c'est tout le temps les mêmes instrumentales,
ah,
c'est
oui.
Tout le temps les mêmes rythmiques en fait.
Attention, là j'ai l'impression que ça change.
Rocky a suivi son maître dans
après,
la
c'est
la
le pont.
Il a
appris
à chasser.
Il y a de la polyphonie.
Exactement. Il y a deux voix. Wouhou, ambiance. En vrai, honnêtement, premier degré, je la trouve sympa cette musique. Elle donne envie de bouger.
Ouais, mais en fait, elle est sympa en fond, comme ça, vite fait, avec deux trucs. C'est chiant, putain, ça.
Et d'ailleurs, où se trouvait ce clip? Tu m'avais dit qu'il était parfois à la fin des cassettes, non?
Ouais, parfois, il le mettait en bonus à la fin des cassettes, il le mettait en bonus dans les DVD. Et je crois même que Disney, en fait, en a tellement marre de cette chanson. N'assume tellement pas cette chanson. que n'assume plus, puis avec les conflits qu'il y a eu avec, au final avec Dorothée qui voulait pas être estampillée Disney, mais qui voulait avoir un partenariat sans être estampillée Disney, en fait, ben, au final, Disney a commencé tout doucement à larguer cette chanson. Mais ouais, en général, elle se trouve dans les bonus DVD. Enfin, elle se trouvait.
On est d'accord que là, on vient de voir tout le film en 3 minutes.
C'est ça. C'est ça.
On est d'accord. C'est
ça. Il y a même eu un fondu de Dorothée, le même que je faisais moi sur mes premières vidéos d'arrangement.
Il y a eu deux fondus de Dorothée, une fois à la fin du premier refrain, et là la deuxième fois. C'est quand même magnifique.
Mais qu'est-ce qu'il ferait maintenant avec la technologie de nos jours? Oh putain, mais c'est vrai que quand tu regardes les paroles, à la fin, quand même, ça finit par l'amitié Rox et Rookie. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Il répète 7 fois l'amitié Rox et Rookie. Les paroles.
Vas-y, parle-nous un petit peu des paroles.
Tu vois, les paroles sont arrivées à un tel point que même Google décide de ne plus montrer les paroles. premier couplet, ça nous raconte le début du film, hein, le contexte. Par la suite, c'est la péripétie. Hein, le renard, il se rend compte qu'il ne peut pas être copain avec le chien parce qu'ils sont ennemis dans la vie. Ensuite, il y a les problèmes. On continue. Hein. Le vent, la neige, sans pitié, ont balayé le doux rêve de l'été. Rookie a suivi son maître dans la forêt. Le Rox, le renard, a bien grandi lui aussi. Il pense à son ami. Oh, c'est beau.
Oh, c'est magnifique, même.
C'est beau. Et Rox et Rookie, devant lui, Grizzly, se sont retrouvés comme par le passé. Rookie est en danger. Rox a le sauvé.
Donc en fait, on a tout simplement un résumé total du film, que ce soit dans les paroles et dans la vidéo. Et est-ce que c'était censé promouvoir le film ou est-ce que c'était juste censé expliquer tout le film?
À l'époque, c'était quand même le seul moyen de vente d'un dessin animé Disney. Avec ça, et puis les promotions, les bandes annonces qu'on en faisait à la télévision, mais ça n'est pas plus loin que ça. Vu qu'il n'y avait pas Internet.
Puis souvent, je pense qu'on se disait, oui, c'est un film pour enfants, c'est pas grave si on dit la fin, et voilà, quoi.
C'est ça. Et puis en plus de ça, c'était la période, parce que chez Disney, c'était quand même plutôt en chute libre, donc au final, c'est pas pour autant que Rox et Rookie a eu beaucoup de succès. Je dirais pas que Rox et Rookie a foiré à cause de Dorothée. Je pense que Dorothée, il est pour rien, la pauvre.
Mais... Oui, je pense.
Lui, je vois pas l'intérêt de raconter un film.
Puis surtout, elle était déjà connue, en fait.
Oui, au Dorothée. Contraire, c'est un coup de boost.
Et donc, quand même, carrière assez courte de Dorothée, pourquoi au final?
Parce qu'elle avait une carrière, comme je disais juste avant, elle avait une carrière avant. Et en fait, s'attacher avec Disney, ça voulait dire pour Disney, enfin, Disney pensait, je pense, se l'accaparer, faire en sorte que Dorothée soit l'ambassadrice Disney et que ce soit eux qui gèrent son image. Dorothée ne le voulait pas, son agent surtout ne voulait pas. Que Dorothée soit estampillée Disney à 100%. Donc au final, il y a eu une rupture tout doucement entre les deux. Pas pour autant que Dorothée n'a plus de carrière après.
Non, ça c'est sûr, même. Au contraire, j'ai envie de dire. Je pense que Dorothée a quand même bien assuré sa chose. D'une, ça lui a donné un coup de boost, comme tu disais. Mmh. Et en plus, elle a pu continuer après. Elle a capitalisé là-dessus au final. Hein. Elle a bien eu raison.
Oui. Elle a fait qu'une chanson, mais au final, elle est connue pour Disney avec cette chanson-là. C'est pas, voilà, la chanson est quand même très connue.
Oui, c'est ça.
J'aimerais bien savoir aussi le nombre de personnes qui se sont appelées Dorothée.
Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont appelées Rookie, beaucoup. Tu penses, à cause de la musique? Je pense pas. Ou Rox, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de Rox.
Il y a une version live. Je fais la transition, boum, comme ça, d'un coup.
Alors oui,
il y a eu une version live de la chanson Rox et Rookie avec Dorothée, mais surtout avec la chanteuse, tu pourrais dire le nom, je ne l'ai plus.
Alors, c'est Jonathan Joanna Wyatt.
Et qui était une petite fille anglaise, qui chantait déjà beaucoup en Angleterre, et qui a repris Rox et Rookie en français avec Dorothée sur scène pour une émission télé, sauf que je vais te laisser mettre la vidéo.
C'est parti, je ne me spoil pas plus que ça, on est parti.
Danseillé. Je suis gêné, je danse. L'accent est pas dégueu.
Ça passe, je comprends pas tout, mais ça passe.
Tu sais, avec la version Dorothée, je comprends pas tout non plus. Hein.
Et Alors, je pense que vous avez compris ce qu'il se passe sur scène. Dorothée ne chante jamais. si on avance un petit peu, elle la regarde.
J'ai quand même vérifié. Hein.
Ah si, les chœurs.
Ah si, elle a fait la double voix.
Ce qu'il est malin pour un prof de musique, c'est rare. On sent quand même que la voix est jeune, hein. On sent vraiment que c'est pour la promouvoir, la gamine, au final. Ah, Dorothée a l'air de s'ennuyer comme pas possible.
Puis elle le regarde, oh, disons,
elle a le regard dans le vide.
Elle est en train de tout me voler.
C'est fou.
Elle est en train de tout me voler. Elle me vole mon succès, c'est pas possible.
Oh, c'était extraordinaire. Merci pour ce partage. Et donc, après Dorothée, donc Disney et Dorothée, ça a splitté. Et arrive l'une des ambassadrices Disney les plus connues, j'ai nommé Dushka. Alors Dushka, il y a avec un S, avec un C. J'ai cherché pendant des heures pour savoir vraiment comment était le pseudo Dushka, c'est bien avec un C. Et donc, de son vrai nom, alors je vais le tenter, Dushka Bojidarka Esposito, née le 26 juin 1963 et année d'ambassadrice de 1984 à 1989. C'est honnêtement, je trouve, l'ambassadrice la plus connue, avec la suivante. Avec la suivante.
Avec la suivante. Voilà. Les deux se valent, mais c'est parce que les deux n'ont pas eu le même rôle. Aussi. Enfin, n'ont pas promu
ouais, ça passe.
Promu la même chose non plus.
Oui, qu'est-ce qu'a promu du coup Dushka ?
Ben Dushka, ce qu'elle a promu surtout, ce sont les dessins animés de l'époque.
C'est ça.
Donc on avait dit par rapport aux dates 84-89, c'est Taram, c'est Basile, c'est Oliver et compagnie, c'est la Petite Sirène aussi, je crois. Sirène. Donc 89, maintenant 89, c'est l'année de la
non,
Petite Sirène.
Non, c'est Anne justement qui arrive avec la Petite Sirène, je crois.
Oh, t'as spoilé.
Pardon.
Oups. Tout spoilé.
Ouais, et en même temps, je fais comme elle, hein, je spoil. Tout simplement. Et donc, Dushka a 20 ans, donc elle est beaucoup plus jeune que Chantal Goya et Dorothée auparavant. 20 ans lors de sa nomination en tant qu'ambassadrice, déjà mannequin depuis ses 12 ans, donc ça fait déjà 8 ans qu'elle est dans le métier un petit peu, sachant que son beau-père est un dénommé Imbert Ibach, je le prononce certainement très mal, Ibach peut-être.
Peut-être Ibach, ou Ibar, en allemand Ibar.
Auteur, compositeur, producteur et réalisateur pour la télévision, il a entre autres travaillé avec Sheila, ou Hervé Villard. Si vous ne connaissez pas ces deux personnes, c'est que vous êtes trop jeune.
Elles ne sont pas mortes. Trop vieux. Mais c'est bien, c'est qu'au niveau du kitsch, il est déjà bien en place. Alors,
ah bah là, il était très très en place au niveau du kitsch. Hein. donc, Dushka, elle a quand même sorti un album par an, ce qui est quand même pas mal. Et surtout, elle a eu 7 titres au top 50. Alors le top 50, pour ceux qui ont moins de 20 ans, ou même 25 ans, le top 50, maintenant on n'en parle plus vraiment d'ailleurs. Le top 50, c'est vraiment les 50 morceaux les plus écoutés d'un moment. D'accord ? Et elle a même été nommée aux Victoires de la musique en 86. Et ça, je trouve ça assez fou qu'une ambassadrice Disney ait été nommée aux Victoires de la musique.
Comme quoi, on prend toujours n'importe quoi aux Victoires de la musique.
Et avant de parler de la fin de Dushka, on va un petit peu parler de ce qu'elle a fait.
Toutes ces chansons, alors c'est pire encore que Dorothée, c'est que toutes ces chansons sont vraiment des résumés des films.
Il faut dire, Dorothée, elle a eu un morceau au point. Donc,
oui, c'est vrai.
On peut difficilement faire...
Après, les paroles, parfois, elles laissent quand même à désirer. C'est que ça raconte les films, mais en même temps, ça t'invite à aller à te plonger dans les films. Ce qui fait que parfois, il y a des paroles qui n'ont strictement aucun sens.
Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on aille directement plonger. Est-ce qu'on parlerait pas de Taram d'abord?
Ouais, on va faire Taram en premier. Pour vous remettre dans le contexte, est un film qui est sorti en 1985, qui est considéré comme le Disney qui a eu le moins de succès. C'est un peu celui que Disney publie encore, mais n'assume pas tellement. Pour moi, l'une des raisons pour lesquelles Taram et Chanson Magique n'a pas fonctionné, c'est qu'il n'y a aucune chanson. C'est le seul Disney où il n'y a vraiment aucune chanson, même en post-générique. Et même la musique, en fait, a été composée par Edmer Bernstein, qui n'a rien à voir, je crois, avec Leonard Bernstein. C'est dommage, parce que la musique, elle n'est pas si exceptionnelle que ça pour du Disney à l'époque.
Ok.
Et donc, voilà. Et donc, Taram et le Chaudron Magique raconte l'histoire de... la chanson raconte l'histoire du film avec d'autres ajouts de paroles qui n'ont strictement aucun sens.
Allez, c'est parti pour Taram. On est d'accord que la choré est quand même vachement travaillée.
Oui. Mais c'est celle qui a, c'est que c'est travaillé pour l'époque, un mec qui a réfléchi là-dessus. Je trouve que Taram et Chaudron Magique est peut-être la chanson la mieux réussie de Douchka.
On est d'accord qu'en plus c'est produit par son père, hein, Ibak.
Mais il est malin, Ibak. Cochon qui rosit d'émotion.
Attends, je fais une petite pause. Le soleil fait quoi les fenêtres ?
L'émotion fait danser les poètes.
Ouais.
Le soleil fait chanter les fenêtres.
Ok.
Et l'amour fait rêver les garçons, les filles de 16 ans. C'est-à-dire que si tu as moins de 16 ans, tu n'as pas le droit d'être amoureux. Si tu as plus de 16 ans, tu n'as plus le droit d'être amoureux.
Ah, oh, c'est triste. Alors, petite pause avant de continuer sur ce morceau qui est quand même déjà assez long. Hein. Il dure quand même quasiment 4 minutes. Waouh.
Enfin, les 4 minutes qui tournent en boucle. Hein.
Déjà, chorégraphiquement parlant, c'est travaillé. Il y a quelque chose. C'est mieux que du Dorothée ou des choses comme ça qui étaient face caméra et qui zoom, qui zoom, qui zoom. Il y a quelque chose. Ensuite, je comprends pas tout aux paroles, hein, très clairement.
Alors, on fait un point de parole maintenant et puis on continue juste après.
Ah ouais.
On s'en arrêtait au garçon vit 2 ans qui sont amoureux. Qu'est-ce qui fait courir Taram ? C'est le chaudron magique. Donc, on met en place l'histoire, normal, Taram, il veut sauver son cochon et puis en même temps le chaudron magique pour que ses ténèbres ne l'attrapent pas et ne deviennent pas maître du monde en faisant le mal. Mon cœur fait boum comme un tam-tam pour le chaudron magique.
Donc alors, là, déjà, c'est un tam-tam ne fait pas boum, ça on le sait, mais ça c'est... Voilà, c'est dans le...
Ça fait... alors, déjà, si Douchka chante « Qu'est-ce qui fait courir Taram ?», ça veut dire qu'elle parle de Taram à la troisième personne. Donc ouais. Dans « Mon cœur fait boum comme un tam-tam pour le chaudron magique », ça veut dire que dans « Mon cœur fait boum », elle parle d'elle-même.
Ouais, c'est ça.
On est d'accord.
Oui, on est d'accord.
Alors, je pars vraiment trop loin dans l'analyse, peut-être.
Alors, c'est du...
Donc, ça veut dire que elle, maintenant, commence à apprécier le chaudron magique.
Ok.
Et là, elle te parle à toi, en tant qu'auditeur de la chanson. Laisse tomber ta littérature et tes vaisseaux cosmiques. Ça veut dire que tu n'as pas plus le droit de. Enfin,
ouais, c'est carrément. De lire des livres ou d'aimer Star Wars, quoi.
Bah, c'est ça en fait, les vaisseaux cosmiques 84, c'est Star Wars.
Mais oui.
Donc en fait, t'as pas le droit de voir l'un des plus grands chefs-d'œuvre de science-fiction et de l'histoire. On n'a même pas le droit de se cultiver en lisant un livre.
C'est ça.
Je trouve ça quand même terrible. Ça veut dire qu'il faut écouter de la merde.
Ah, mais très clairement.
Et puis regarder Taram et le Chaudron Magique qui n'est pas le meilleur de Disney. Et la dernière phrase, j'ai le nouveau plan pour l'aventure, c'est le chaudron magique. Ça, pourquoi pas. Ensuite. On brode les paroles. Oh wow, oh, oh wow, pour la fête, c'est génial. Oh wow, oh, 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 c'est la fête intégrale. Pourquoi pas, hein, le wow, wow, y a Magic System qui le fait dans toutes les chansons pour gagner 2 minutes. Il y a super urgence, on est en partance. Donc on te pousse vraiment à aller chercher le chaudron magique. Pourquoi pas, mais c'est affreux. Il y a super urgence, on est en partance. Ouais, ça n'a aucun sens. Après. On te raconte l'histoire, on te met en place les personnages, on t'a mis en place de la Taram, si t'as pas compris Taram, c'est celui qui va sauver toute l'histoire, en même temps quand ça s'appelle Taram et Chaudron Magique, t'es un petit peu con, avec Gurki, le croqueur de pommes. Gurki, c'est le petit chien, c'est une sorte de petit chien, être vivant, qui parle, qui suit Taram et puis ses copains, parce qu'il n'a pas d'amis, et puis en même temps, c'est un peu un boulet, et puis au final, c'est lui qui sauve tout le truc, et puis il adore les pommes. Donc Gurki, c'est le petit chien. C'est le petit chien. Remets le clip. Une surprise. Trop tard, merde.
Ah mince, ok, je vois quand c'est ce qu'il faut que je mette. On va voir.
Il y a deux chiens.
Ah, c'est les deux Gurki, ok.
À côté, on est d'accord que Peter Pan, c'est arabe, normalement.
Oui, on est d'accord. Je croyais que c'était Gaston, mais version maigre.
C'est Gaston. C'est Gaston, Peter Pan. En fait, Taram, c'est Gaston, plus tard.
Okay. Ah, en fait, c'est l'enfance de Gaston que t'as ramené le chou dans ma vie. Très bien, mais je comprends mieux.
Et donc, Tirelire, le cochon médium. Parce que oui, c'est Tirelire. Le médecin de Thèbes cherche aussi Tirelire parce que c'est un cochon médium qui peut l'aider à envahir le monde. On va défier le guerrier noir. Le guerrier noir, c'est quand même le seigneur des ténèbres. Donc tu passes d'un mec qui il est sur un trône, dans un château qui est totalement défoncé, il fait peur à tout le monde, mais il est passé d'un guerrier noir qui... Guerrier, pour moi, c'est plus quelqu'un qui va faire des quêtes et qui va tuer tout le monde.
Oui.
Et donc, dans son vieux manoir, on passe... Là, clairement, de la manière dont c'est raconté, c'est on passe d'un château écossais énorme à la maison abandonnée au coin de la rue, quoi.
Oui.
Après, une Gurki, le tofu, pourquoi pas. Il a des poils, il est fou dans l'histoire, et toujours dans le coup avec nous. Comment dire, dans Taram et Chaudron Magique, Gurki n'est pas du tout aimé par ses copains.
Ok, oh le pauvre, oh la tristesse.
Et Tirelire, le petit cochon, rosie d'émotion. Ce qu'il a besoin de commenter.
Parce qu'il est rose, quoi, voilà. Ok, donc en fait, niveau cochon, des paroles, quoi. D'accord, ça vole très très haut.
C'est ça. Donc on est arrivé à l'émotion, fait danser les poètes, le soleil, je fais chanter les poètes. Oh, 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 t'as bien compris l'ambiance. Oh, oh, on tient la même fréquence. Tous à la poursuite du chaudron magique. T'as bien compris l'ambiance. Ouais, grosse ambiance. Hein. Ensuite, je comprends pas l'intérêt des phrases. Le roi voudrait bien décimer notre petite bande dessinée, mais après mille péripéties, ciao le bandit. Donc le roi, ça serait le guerrier noir.
Oui, c'est ça, on est d'accord.
Parce qu'il n'y a pas de roi dans l'histoire.
Non.
Notre petite bande dessinée.
Quatrième mur, bonjour.
Et ensuite, Héloïse fait danser la légende. Alors Héloïse, c'est l'héroïne du film. Hein. Parce qu'il faut une fille à l'époque.
C'est le love interest.
Ouais. Oui, si, bah oui, si en plus, oui. Et la rentrée fait chanter les vendanges. Vas-y, je te laisse mettre.
Je continue de mettre la ça en fond comme ça.
Ouais. Donc la rentrée fait rentrer des vendanges, quel est l'intérêt ? L'amour fait rêver les garçons, les filles de 16 ans, bon, on est revenu avec ça. Donc là on est sur le... Le chaudron magique. Et les images, là, ce sont vraiment les images du dessin animé original. Tu vois la qualité par rapport à l'époque, quoi.
Ouais.
Sachant qu'ils avaient aussi repris des éléments. Ça, c'est dans Winnie l'ourson. C'est dans aussi Le livre de la jungle.
Oui, c'est vrai. C'est ce film-là qui a repris énormément de plans. Ah ouais. En fait, la Corée... Enfin, tout ne va pas du tout avec le film, en fait, au final. Rien ne
non.
va. Mais c'est super, c'est excellent. Ah, c'est le pont.
J'attends l'étoile.
Quelle étoile? L'amour astral.
Je sais pas. C'est un peu de la voyance, il y a un chaudron magique, il y a...
Passion musique.
Cette phrase...
Attends, comment ça je cherche?
Aucun intérêt. Elle cherche l'Amérique, les filles romantiques. Donc, l'histoire de Taram est censée se passer au Moyen-Âge.
Oui.
L'Amérique telle qu'il la pense dans la chanson n'existe pas.
Cherche l'Amérique, mais il n'y a pas de logique. Ok, et après, c'est le refrain qui revient encore et encore. Ah, il y a les méchants derrière maintenant. Qu'est-ce qu'il fait, ouais. Louis?
Et lui, c'est le méchant un peu bouffon qui est pas si méchant que ça au final.
Ouais.
C'est le méchant teubé. Fille romantique. Et après, voilà.
Voilà, après ça, c'est
la même chose. Le même refrain.
Mais ce n'est pas fini car nous allons passer à un autre clip encore Mieux que ça, vous connaissez peut-être Basil, détective privé.
Basil est un Sherlock Holmes version souris. Il doit aller retrouver le papa d'une petite fille le papa s'est fait kidnapper. Et c'est le méchant Ratigan qui a kidnappé ce papa, parce que le papa est créateur de petites figurines animées. Et puis Ratigan veut plein de petites figurines animées pour prendre le trône. Donc Ratigan et Basil, on l'a bien compris, sont des ennemis.
Ennemis jurés. Attention, vous n'êtes pas prêts. C'est parti. Donc voici Basil. Nous sommes en 86 et voici Ratigan.
Voici Ratigan. Ratigan qui la surveille.
Alors on est d'accord, juste petite interlude, les basiles qu'on a dans les oreilles, c'est assez insupportable. Basile,
oui.
Basile,
oh oui, je trouve ça chiant.
Oh là là, on continue.
Et le danseur de droite et même le sur non. Il y a un côté Karen Cheryl, Desireless.
Et je crois que c'est le même que
la chorégraphie, c'est Thriller. La chorégraphie, c'est Thriller.
Wow.
On va vraiment demander au gars dans Basile de faire cette chorégraphie là. Le mec, on lui a dit t'improvise, tu fais
impro, là c'est de l'impro, vraiment.
Donc on est dans la maison, c'est ça qui va pas avec l'histoire, on est dans la maison de Basile normalement. La maison basique a l'impression qu'elle se passe sur les toits de Paris, et c'est dans une prison, enfin dans une prison dans sur les toits de Paris, et il y a Ratigan qui est derrière en train de le surveiller, quoi.
Ouais.
Et avec la perspective, on dirait que c'est Basile qui est dans la prison et Ratigan qui est à l'extérieur.
C'est ça, on est un petit. C'est vraiment ça. Alors, par contre, tout petit point parole, elle parle pour ne rien dire.
Attends. Je t'avoue que.
Mais là, j'ai l'impression qu'elle dit des mots qui riment en il, subtils, des trucs comme ça qui ne veulent rien dire au final, et juste pour. Voilà, qu'il y ait une chanson, des mots lancés au hasard, j'ai l'impression.
Attends. Basile, où ça, qui ça, qui a la clé de tous les mystères, qui les résout facile, ne cherche pas cette commissaire, c'est l'inspecteur Basile. Inspecteur Basile, c'est un détective privé. Hein. Il court toujours, il n'a jamais peur, il va, il vole, il file, j'aimerais te suivre à 200 à l'heure, mais quoi tu Basile. Ouais, ça, pourquoi pas, ok. Détective Basile, superbe et subtil, détective, t'arrives, on est sauvé. Ouais, alors, c'est en lien avec l'histoire, mais c'est...
Pour une fois, ne spoile pas.
Ouais, c'est ça, elle présente juste le personnage. Mais par contre, oui, j'avoue que les paroles n'ont strictement aucun intérêt. Mmh. Et là, on va arriver, je pense, sur les paroles pures. Je voudrais m'appeler Watson pour grossir à la loupe. Tout est mis les scoops. Vas-y, tu as le flair et la tactique. Et tous les soirs, la République peut s'endormir tranquille grâce à toi, Mister Basile. Pause. Vas-y, pause. On va analyser ça, c'est ridicule. Basile, tu es Sherlock Holmes en personne. Ok, je voudrais m'appeler Watson. C'est le genre de parole des années 80-90 où clairement, c'est de la drague. Je voudrais m'appeler Watson pour être ton Sherlock Holmes. Pour grossir à la loupe. Et c'est avec la suite de la phrase, tout est mini-scoop. Donc si vraiment on prend juste les trois premières phrases, c'est un peu tendancieux. Basile, tu es Sherlock Holmes en personne. Je voudrais m'appeler Watson pour grossir à la loupe. Tout est mini-scoop. Basile, tu as le flair et la tactique. Et tous les soirs, la République peut s'endormir tranquille. Basile est un personnage anglais. République, je mets ça comme ça. Et grâce à toi, Mister Basile. Voilà.
C'est pour une rime en hic, voilà, c'est tout.
Il y a pique, il y a pique-nique, il y a des enfants.
Voilà, on continue. Le retour des voix insupportables. Toi, tu aurais mis Il y a quand même des références, littérature, c'est bien.
J'avoue que le... Ah putain, je viens de comprendre. Bon, si je te dis Basile, t'es super, t'es même parfois parfait. Oui, ok. Et j'ai compris, t'es tenté de chanter élémentaire. Oui, parce que élémentaire, mon cher Watson, oui. C'est bon, je viens de comprendre.
C'est pour le coup, la muselière au chêne des Baskerville, c'est Baskerville. Bien, c'est intéressant. Ouais,
c'est... Par contre, qui est l'orfèvre du Quai des Orfèvres?
Non, là non. Hein. Mais encore une fois, voilà, c'est de la pub. C'est clairement de la pub de façon déguisée. Attends, Basile le bien nommé?
Oui.
Ça ne veut rien dire.
Ça, on est revenu sur le refrain.
Oui, voilà. Après, j'ai l'impression que c'est encore le refrain plusieurs fois, non? Ah non, peut-être pas.
Ouais, super. T'arrives, on est sauvés.
Allez, dansez chez vous.
Ah oui, non, c'est ça. Non, c'est la partie du clip qui n'a aucun intérêt. Ah. On va y arriver.
Ah oui, extraordinaire. Regardez-moi ça.
Prends-moi au mur.
Dansons ensemble.
Attends.
Ça n'a aucun putain d'intérêt. Ça n'a strictement aucun putain d'intérêt.
Vous venez donc de voir Basile et Ratigan en train de danser collé serré. Dans les rues.
Et Basile qui se colle au mur. Ah, oh, c'est génial.
Julien n'en revient pas non.
Ouais. Oui. C'est l'arrivée furtive de Ratigan. Et dansons ensemble.
C'est fou. Allez, on continue, on finit ce morceau.
Oh, bah après, c'est la base. On peut laisser peut-être la musique en fond en attendant, mais là, enfin.
Voilà, donc.
Je trouve ça excellent.
Au final, c'est ça pour tout le temps d'Ushka. C'est ça danse, ça chante des mélodies qui rentrent dans la tête facilement. Au final, c'est vrai parce que. Oh, 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 Détective Basile, vous allez le chanter encore demain, vous allez voir, ça va être l'horreur.
C'est la chanson des années 80, quoi. C'est ça, en fait. Hein.
Avec le synthé derrière aussi, c'est impressionnant.
Et je pense que ces sons-là n'existent plus.
Si,
tu cherches maintenant sur des clavinos et trucs comme ça, ça se retrouve plus. Moi, par contre, il y a un truc qui me fait plaisir, qui m'attriste maintenant quand je vois ces clips, c'est qu'il y a quand même un personnage de Gurki, un personnage de Basile, un personnage de Ratigan.
Oui.
Quand Gurki, Ratigan ou Basile apparaîtront sur les parcs?
Alors, Basile et Ratigan, ils n'étaient pas apparus au niveau du 25e anniversaire, je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois.
Ce sera un prochain live.
C'est ça. Et je te propose que l'on passe à troisième morceau de Dushka avant de passer à la suite et de surtout de parler de la fin de Dushka et Disney.
Le plus connu, c'est le morceau le plus connu. C'est celui le plus connu de. Ma phrase est totalement française. C'est le morceau le plus connu de Dushka par rapport à Disney.
Ça s'appelle donc, Mickey, Donald et moi.
Le danseur à droite, bien sûr, est le même que le danseur à mes pieds dans. On va dire. Ça ressemble plus à du chanteur Goya, ça, je trouve.
Oui.
Très génial.
Faut dire, c'est l'un des premiers morceaux au final de Dushka.
Oui. 84. Faut quand même savoir qu'à l'époque, Mickey et Donald sont dans le clip, mais Disney n'existe pas encore en France. Donc, ce sont les premières apparitions de Mickey que nous avons.
Alors, à mon souvenir, on a quand même Chantal Goya ou Dorothée, je ne sais plus,
ah oui.
Qui oui. Pose avec Mickey.
Devant la Tour Eiffel.
Bon, Bon, on est d'accord que niveau musical, ça casse pas trois pattes à un Donald.
Non, c'est très répétitif, ça tourne. Alors, il y a quand même des belles petites pépites au niveau du texte, juste sur le premier couplet. Salut, Mickey, Donald et moi, on vient comme ça. Ne perdons pas de temps, allez, fais vite, mets ton jean, plonge dans tes baskets, tes parents nous laissent faire la fête, pourquoi pas. Ok. Super, on a tout préparé. Mickey a rempli une verre de coca. Donald nous rejoue pour la 100e fois son dernier numéro de claquette.
Alors, il faut savoir quand même. Et honnêtement, ça passe parce que Disney et Coca avaient des partenariats à l'époque aussi. Il y a aucun problème, ça rentre dedans. Mickey remplit ton verre de coca, il y a aucun problème, c'est possible.
Après, niveau du texte, ouais, ça n'a aucun intérêt. Enfin, clairement, ça n'a aucun intérêt. Il y a rien qui va ensemble. Ça parle de Boléro de Ravel avec le gominet de Travolta. En fait, c'est juste une invitation à faire la fête avec le monde de Disney sans Disneyland.
Mais c'est la rêve partie des années 80, quoi.
C'est ça. Comment je l'ai marqué ?
Rêve partie, juin et tout le bordel.
Et voilà. Tu veux nous parler de la fin de Douchka, peut-être ?
Alors, effectivement, Douchka en a un petit peu assez avec cette image mignonne. Déjà, elle rompt son contrat avec Disney. Et elle en a marre de cette image de jeune fille bien sous tout rapport. Et elle décide de faire des photos olé olé, où elle décide de poser dénudée. Et pourtant, c'est ça que j'ai été étonné de savoir, c'est que pendant plusieurs années après, jusque dans les années 90, Disney ressortait encore des musiques de Douchka. En fait, c'est une Britney Spears avant l'heure, parce que Britney Spears avait bossé avec Disney oui. D'ailleurs. Fut un temps, ne parlons pas des autres ambassadrices Disney américaines, mais c'est un petit peu une Britney Spears avant l'heure Douchka, hein, au final quand on y pense. Douchka n'existe plus pour Disney, et elle laisse sa place à une jeune fille, alors qu'elle a 20 ans lors de sa nomination en tant qu'ambassadrice, mannequin et comédienne auparavant, également dans le théâtre et la comédie musicale, dont Émilie Joly. Je vous présente Anne, qui a rejoint Disney en tant qu'ambassadrice à l'âge de 14 ans. Mais toi, face à cette erreur, Oliver, Oliver, tu n'as pas peur. Les embûches et les embrouilles, tu les connais par cœur. Oliver, Oliver, tu n'as pas peur. Tout, toujours tu te débrouilles. Tu sais que ce monde est dur quand on court sans chaussures dans le rythme de la ville. Anne Messon Poliakov de son vrai nom, née le 12 mai 75, année d'ambassadrice 89 à 94. Et chose que j'aime beaucoup, c'est que elle était choriste pour Douchka justement juste avant. Et en fait, Anne va co-animer une émission culte Disney Parade sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault, qui est quand même l'émission la plus connue au final. Pour les personnes de notre génération et surtout celle d'avant, accessoirement. Parce que cette émission, à quoi elle servait, Max ?
Bah, elle servait à promouvoir Disney à l'époque.
Et surtout Disneyland Paris, qui allait ouvrir en 92.
C'est 89-91, c'est on promue les films Disney, on promue l'univers Disney, tout ça. Et puis ouais, dès que Disney a commencé à tout doucement s'imposer avec le parc.
Dès que le parc a commencé à être construit, il commençait déjà à faire la promo, tout comme Walt Disney à son époque pour les parcs Disneyland. Et donc, on va quand même vous montrer directement des vidéos avec Bernard et Bianca.
Bernard et Bianca, le numéro 2. Bernard et Bianca au pays des kangourous.
Oui, c'est ça.
Comme d'hab, hein, bien sûr, ça raconte l'histoire.
Avec Tom Cruise, qui joue de l'harmonica.
Et ces scènes d'animation, par contre, étaient magnifiques.
Ouais.
Par contre, le fond vert, beaucoup moins.
Je pense que vous avez d'ores et déjà compris que on a quand même un gros spoil du film qui arrive. Hein.
Là, on est arrivé sur le premier quart d'heure du film. Sachant que dans le film, vraiment, le titre arrive au bout d'un quart d'heure. Donc, tout ce qu'elle a raconté là, ça se passe vraiment pendant un quart d'heure. On voit le petit gamin sur l'aigle qu'on voit aussi dans les images. Et après, on voit le méchant qui kidnappe le petit gamin avec l'aigle, parce qu'il a envie de l'aigle. C'est tout.
On continue.
C'est horrible, c'est horrible. Horrible. Il y a un H. Le Grand Canyon est aussi grand que...
Oui,
que,
oui, elle est très grande, Anne. Hein, Anne.
Et le slap qui va avec et tout. Ça va être bientôt. Ah, j'ai pas la suite des paroles. Voilà, on est sur la suite de l'histoire.
J'adore cette phrase. Il y a ce lézard qui aime la baston, la bagarre.
Ça a envie de se battre, hein. J'ai fait de la boxe au collège.
Elle est extraordinaire.
Terrible. Et le pire, c'est que le lézard, en fait, c'est un gros boulet, donc il n'a même pas la bagarre, il n'y a rien de tout ça, ils sont fous, le lézard.
Bon, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment toute l'histoire. Et regardez aussi lézard, très en fait. Attentivement le batteur, qui d'une a une batterie totalement explosée. Je pense qu'ils l'ont récupéré, je ne sais où la batterie, mais elle a bien vécu. Et le guitariste extraordinaire. On continue ? Tu veux qu'on continue, Max ?
Ah oh, oui.
C'est horrible, SOS, en détresse. Bernard et Bianca, pour le sauver de ce goût, vite,
enroulez-vous. Bernard et Bianca, allez-y. Dites-nous dans le chat si vous avez reconnu c'était quoi ce motif
de cuivre
à la trompette.
Alors, à quoi ça ressemble ceci ? Je le remets juste pour le plaisir.
Pourquoi tu peux le mettre en boucle, ce qui revient 15 fois environ.
Allez-y, on attend quelques petits instants. À quoi cela ressemble-t-il ? Indiana Jones, Julien était extrêmement rapide. Bravo.
Quel lumière, merci Julien.
John Williams n'a rien inventé.
Yeah, solo de guitare.
Et d'harmonica.
Les mains ne vont pas en rythme.
Comme d'hab.
Je crois que l'harmoniste le fait.
Oui, alors vous allez voir.
Trop tard, je crois même y passer, c'est la fin de la chanson.
Ouais.
Ça va être là.
Cet homme a une joie de vivre extraordinaire. Je ne me cache, je m'en fous littéralement.
On sent
regardez-moi
c'est
ça.
C'est le clip qu'ils ont fait vite fait. On vient se marrer.
Cet homme a une joie de vivre extraordinaire. Il est
je
super.
Je veux qu'on dise que c'est un génie.
Et donc, on va avoir maintenant une chanson assez étrange.
Le temps de cette chanson, le temps jusqu'à la chanson, elle tourne un petit peu qu'on arrive vraiment à ce qui nous intéresse. On peut peut-être juste parler d'Anne au pays de Disneyland.
Bien sûr, vas-y.
C'était en fait un spectacle qui s'est déroulé à l'Olympia en 1991, qui faisait la promotion de Disneyland Paris. Donc en fait, toutes les scènes étaient autour des landes et des spectacles de Disneyland, de Euro Disney. À son ouverture, avec Anne qui chantait environ une chanson sur deux, sur trois, et dont ses albums aussi, et qui, à la fin et au début de chaque chanson, disait « Est-ce que ça va bien ? Je vous entends pas !» Et donc Demain c'est aujourd'hui, c'est une chanson qui est mise sur l'album donc Que fera la belle, la belle, la chanson de la belle et la bête. Et cette chanson, Demain c'est aujourd'hui, a été composée et chantée par, je n'ai pas son nom, son nom de famille, parce que c'est très compliqué à dire, mais Émile. Et Émile, c'est Émile.
Vous reconnaissez très certainement sa voix. De quel groupe est cet Émile?
Quand on dit Émile, on a trouvé la moitié du truc.
Oui, c'est ça.
Émile Louis.
Non, mais... non, Max, non. Je cache Max. Hop, je le bannis.
Donc c'est Émile de Émile et Images.
Émile et Images de Gold.
Initialement de Gold, voilà.
Donc voilà, petit feat entre Anne. Donc Anne et Émile.
Qui a composé donc cette chanson? Mais t'as un autre Émile, toi, en référence?
Non. Mais c'est pour ça que je dis rien, moi.
Et voilà. Et donc Anne, après, a arrêté. Je te laisse dire un peu pourquoi elle a arrêté.
Eh bien, elle a arrêté. Eh ben, j'en sais pas vraiment pas grand-chose. Hein. Pourquoi elle a arrêté? Parce que son contrat s'est terminé, tout simplement. Son contrat s'est terminé. Après, elle a continué. Hein, elle a continué de faire de la scène. Donc, la petite Anne, qui était quand même l'une des ambassadrices préférées des enfants. Et d'ailleurs, ça a posé problème à la personne qui a suivi. À l'ambassadrice qui a suivi, ambassadrice à 19 ans. Donc, sachant que Anne a rejoint à 14 ans et qu'il était 5 ans, elle a quitté donc Disney à 19 ans. Séverine est devenue ambassadrice à 19 ans. Et c'était très difficile pour elle, elle l'a dit elle-même, très difficile de passer après Anne, qui avait énormément de succès. C'était très difficile pour elle, elle l'a dit elle-même, très difficile de passer après Anne, qui avait énormément de succès. Séverine, qui devient très rapidement Séverine Claire, son véritable nom, car une autre artiste, une autre chanteuse, a revendiqué le pseudo Séverine. Et Séverine a été contrainte d'utiliser son nom de famille, Séverine Claire.
Elle co-anime aussi de la Disney Parade avec Jean-Pierre Foucault.
Elle co-anime effectivement la Disney Parade avec Jean-Pierre Foucault, et comme Disneyland Paris est déjà ouvert, donc elle fait énormément de live à Disneyland Paris. Alors je te laisse dire ce que tu as écrit.
Musicalement, elle a fait des albums qui tournaient autour des personnages Disney. J'ai essayé d'en écouter une chanson, pas de spoil d'histoire ni rien de tout ça, mais musicalement, c'est quand même la fin des années 90. La fin des années 90, c'est censé être musicalement un peu mieux que les années 80, même s'il n'y a pas toujours des grands succès. Là, le problème, c'est que c'est vraiment pas terrible. Et je revendique une chose, c'est moi qui le dis, c'est vraiment qu'il y a un truc. Même les albums We Love Disney, qui sont sortis il y a à peine une dizaine d'années, sont beaucoup mieux. Les chansons de Céline Claire.
Et ça fait mal. Regardez cette introduction extraordinaire. On va se faire démonétiser, mais c'est pas grave.
C'est beau. J'ai déjà fait. C'est magique, c'est dans cette introduction.
Hein, avec les images des parcs américains, c'est magnifique.
En Californie. La Main Street est sur le Parade. Hâte de revoir une version modifiée à Tokyo l'année prochaine.
Séverine, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci Séverine et Jean-Pierre.
Chaque dimanche après-midi, nous allons passer.
Alors, il faut savoir que Séverine était quand même une très bonne présentatrice au final. Elle a présenté de nombreux. De très nombreuses émissions Disney. Disney France l'a vraiment mis en avant. Et c'était quand même pas mal. Disney Parades, c'était ça, c'était des dessins animés, et entre chaque dessin animé, on avait Jean-Pierre Foucault et l'ambassadrice, donc là c'est Séverine, auparavant Anne, et après vous verrez de qui on va parler. Voilà, c'était à chaque fois dans le parc, qui présentait, voilà, c'était vraiment la promotion dans tous les cas du parc. Profiter de diffuser des dessins animés Disney et en plus de promouvoir Disneyland Paris. Il faut savoir quand même que Séverine était plus à l'aise au niveau de la présentation que Anne, mais Anne était beaucoup plus connue pour ses chansons et pour le fait qu'elle chantait partout, absolument partout.
Anne était aussi beaucoup plus jeune et je trouvais un peu plus de charisme que Séverine, enfin, et plus de prestance,
oui,
si on peut dire. Parce que les Disney Parades, je crois, se déroulaient à chaque fois que sur un seul land, une seule partie du parc. Mmh. J'ai trouvé sur YouTube le premier Disney Parade de Séverine, qui était sur les toits d'Adventureland.
Ok, sympa.
En 97, et c'était juste à côté du nid de...
Vas-y.
Du nid de... Putain, c'est un secret en plus.
Ouais. Allez, on va voir s'il connaît mon site. Hein.
C'est le nid de l'œuf dans Sinbad.
Oh, pas mal. Ça passe. C'est le nid de Rock, de l'oiseau Rock. Et donc, Séverine quitte Disney le 31 août 1997, après son dernier Disney Parade, et arrive le 7 septembre 1997, une jeune fille, et je dis bien jeune fille, car elle a seulement 11 ans. Cette jeune fille s'appelle Mélanie. De son vrai nom, Mélanie Leduc, née en 1986, elle est à peine plus vieille que nous, et elle a été ambassadrice seulement un an et demi, honnêtement, entre 97 et 98, car elle arrive le 7 septembre 97 sur Disney Parade et est tout simplement renvoyée entre Noël et Jour de l'An 98. Le 27 décembre 98, c'est fini. Il n'y a plus d'ambassadrice Disney depuis le 27 décembre 98. Donc Disney Parade attire de moins en moins, car... En fait, Disney Parade ne se passe plus, tout simplement, à Disneyland Paris. Donc la petite Mélanie, seulement 11 ans, sixième et dernière ambassadrice Disney, même si, en vérité, il y a seulement 5 ambassadrices, vu que Chantal Goya n'était pas véritablement une ambassadrice Disney. C'est et donc, grave, voilà, on a en fait des plans de Mélanie dans le parc, en train de regarder la parade, par exemple, la vraie parade de Disneyland Paris.
Cette musique de Vasily Charlie.
Mais tout ce qui est présentation, lancement, se passe directement en studio et ne se passe plus à Disneyland Paris, comme vous voyez. C'est un studio en 3D pour vendre un petit peu. Alors, Mélanie, qui, depuis son renvoi donc en 98, est devenue véritable comédienne de théâtre. Mélanie Leduc, qui fait partie de compagnies théâtrales encore actuellement. Et donc, voilà un petit peu l'univers des ambassadrices Disney. Donc là, vous voyez, voilà. Là, on a un
et maintenant, ça ne marcherait plus du tout.
Bah, je me demande si ça ne marcherait plus.
Non, enfin, déjà, parce que maintenant, qui dit Disney dit entreprise, donc CSA.
Et le CSA refuse donc, les enfants ?
Non, le CSA refuse en fait qu'on fasse la promotion d'un parc, d'une manière comme ça, affirmée dans une émission télé assez récurrente.
C'est-à-dire qu'une
émission toute simple sur... Ouais, genre une émission toute simple sur Envoyé spécial, un truc comme ça, qui dit voilà comment va marcher le parc Astérix, et puis au final, c'est dans le titre, c'est une journée dans un parc, un truc comme ça, et puis tu te bases sur le parc Astérix, ça passe. Par contre, faire une émission Disney ou Disneyland Paris, ça ne marche plus. Je crois que l'émission Les 20 ans de Disneyland Paris, qui avait eu il y a 10 ans, c'est ça, 10 ans, c'est peut-être la toute dernière.
Donc on va juste vous faire un petit... Du coup, je vais arrêter ça. Un petit tour. Donc, on a Chantal Goya, première ambassadrice, qui n'est pas une ambassadrice officielle, mais qui a promu un petit peu Disney, qui a été la partenaire de Disney. Ensuite, nous avons eu Dorothée, première véritable ambassadrice qui a seulement sorti donc la chanson Rock c'est Rookie. Nous avons ensuite eu Douchka, l'une des plus connues, qui a quand même été nommée aux Victoires de la Musique en 86. S'ensuit la deuxième plus connue, Anne Messon, qui...
De Disneyland, si on peut dire. La plus connue de Disneyland, on va dire.
Pour
si
le coup, oui, exactement. Qui a fait d'excellents clips avec Basile Détective Privé ou Bernard Ribanka au pays des kangourous. Je vous invite vraiment à regarder en replay. Vous allez voir, on s'est tapé des fous rires pendant cette émission. Ensuite, Séverine, donc, dont on vient de parler, qui était un petit peu la fin. On sentait déjà la fin pointer le bout de son nez pour les ambassadrices. Et enfin, Mélanie, qui n'a vécu en tant qu'ambassadrice seulement un an et demi.
Par contre, après, c'est la question aussi à se poser. Est-ce que si Yann avait duré plus longtemps, est-ce que les ambassadrices auraient peut-être duré plus longtemps ?
Peut-être, mais en fait, je pense... Parce que ça s'est fini en 98, je pense vraiment que dans les années 2000, ça aurait pu fonctionner. Hein. Vraiment. Ouais. Je pense vraiment. Quand on voit le succès des ambassadrices Disney aux États-Unis, qui ont quand même eu beaucoup de succès, hein, quand on voit justement tout ce qui est Miley Cyrus, des choses comme ça, même si au final... Elles ont, entre guillemets, mal fini. D'ailleurs, en parlant de Miley Cyrus, j'ai vu qu'elle allait certainement reprendre son rôle.
À la Montana,
apparemment, elle va reprendre son rôle. Donc, au final, Disney sait pardonner les erreurs de parcours, ou en tout cas, les parcours qui diffèrent vraiment de ce que voudrait Disney. Sachant que Douchka a eu un petit peu la même chose. Hein. Je vous rappelle que Douchka a quitté Disney, a rompu son contrat et ensuite allé prouver que ce n'était plus une jeune fille en posant avec des photos un petit peu plus osées. Donc voilà, c'est ça, c'était l'univers des ambassadrices Disney. Est-ce que tu as un mot de la fin, Max ? Je ne sais pas si tu veux parler d'autre chose, rebondir...
Boing.
Boing, voilà. Bon, c'est un beau mot de la fin.
On peut parler on peut juste faire vite fait notre promotion à nous.
Hein, bien sûr.
Instant promo numéro 3. Abonnez-vous à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner, sur la petite cloche, pour bien être au courant chaque fois de nos apparitions sur la plateforme qui est YouTube. Nous sommes présents aussi sur Twitter, à Box Disney, Instagram, à la Disney Music Box. Et tout récemment, la page Facebook est aussi arrivée, où est-ce qu'on repartage au fur et à mesure les différents contenus que nous avons produits durant cette année, depuis le mois de novembre. Puis voilà. Et puis là, bien sûr, donc on va quitter ce live avec notre petit bonus, petit arrangement de chaque fin de live, qui est super sympa.
Et vous êtes bien sûr pas prêts, vu que ça parle justement d'ambassadrice Disney, vous allez voir. C'est une chanson qu'on a mis en début de live. À la prochaine tout le monde!
À bientôt, ciao!
Je connais un pays au ciel toujours bleu, fantastique et magique, inventé par un magicien merveilleux. Ouvrez bien vos yeux, emmène-nous Marie-Rose, écoute Marie-Rose, où se trouve ce beau pays bleu. À la sortie de l'école, ça y est, on s'envole pour le pays des enfants heureux. Allons chanter avec Mickey, allons danser avec Minnie, avec Donald, avec Goofy, avec Dumbo, l'éléphant qui s'envole, avec Clochette, avec Wendy, avec Pluto, avec Bambi. Qui prépare le repas avec joyeux, des nains merveilleux. Emmène-nous Marie-Rose, écoute Marie-Rose, voilà le carrosse de Cendrillon. Je vois la fée Carabosse, mais l'heure est si proche qu'il faut revenir à la maison. Allons chanter avec Mickey, allons danser avec Minnie, avec Donald, avec Goofy, avec Dumbo, l'éléphant qui
est avec Wendy, avec Pluto, avec Bambi. On en verra de toutes les couleurs au pays du bonheur. Allons chanter avec Mickey, allons danser avec Minnie, avec Donald, avec Goofy, avec Dumbo, l'éléphant qui s'envole, avec Clochette, avec Wendy, avec Pluto.